Nous poursuivons donc sur l'étude des quatre as dans la lettre aux Colossiens. Au chapitre 4, nous lisons les versets 12 et 13. Colossiens 4, 12 et 13. Épaphras, dit l'apôtre, Épaphras qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfaits et pleinement persuadés, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu, car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Il est question d'Épaphras à peu près 5 fois seulement dans tout le Nouveau Testament. 4 des 5 allusions à cet homme sont dans l'Épître aux Colossiens. La 5e dans celle à Philémon. Qui était cet Épaphras, illustre inconnu, qui tout à coup sort de l'ombre? L'apôtre Paul ne le présente pas comme ayant été remarquable pour ses formidables prédications. Non, on ne le connaît pas de cette manière-là. L'apôtre n'en parle pas non plus comme ayant été un homme au bénéfice de dons tout à fait exceptionnels, non plus. Il en parle pour sa puissante intercession, pour sa puissante vie de prière. Épaphras était un géant de l'intercession. Pour ceux qui ont suivi les études depuis le premier soir, Ananias, lui, symbolisait la disponibilité en même temps que l'obéissance. Barnabas, fils d'exhortation, comme son nom l'indique, avait un ministère d'encouragement, de consolation, d'édification. Silas a été l'homme des situations critiques, difficile, auquel il avait été beaucoup demandé. Nous l'avons vu hier soir. Maintenant, nous sommes face à Épaphras, lequel était un homme d'intercession, un homme de prière. Vous savez que l'intercession est l'une des multiples formes que la prière peut revêtir. Intercéder, c'est intervenir auprès de Dieu en faveur d'autrui. Et si nous savions combien on priait pour nous, souvent à notre insu, nous en serions confondus, et ce souvent quand nous nous étions crus seuls dans nos circonstances. Je me souviens, il y a peu de temps, après une réunion tenue au palais de Beaulieu à Lausanne, je m'étais trouvé libre le soir pour aller entendre un serviteur de Dieu dont j'avais beaucoup entendu parler, qui était de passage à Lausanne. Et une fois la réunion terminée, cette réunion que j'avais appréciée de sa part sur l'Épître aux Romains, j'étais allé vers lui pour le saluer et pour lui dire « Je suis très heureux de faire votre connaissance parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous et me voilà maintenant en face de vous. » Et ce frère, cette personne de me dire « Vous êtes Alain Choitier ?» Je dis « Oui. » Tout à coup, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré très fort sur sa poitrine, je me demandais ce qui lui arrivait, et il m'a dit « Mais quelle joie de vous rencontrer !» Parce que j'ai prié des années pour votre conversion. Alors moi, je le regardais tout bête. « Vous avez prié pour ma conversion ?»« Oui, oui, j'ai prié des années pour votre conversion. » J'étais alors missionnaire au Liban. Ralph Chalice était missionnaire à Alger. Nous étions très liés, nous le sommes toujours. Et nous échangions une correspondance fidèle. Lui me passait des noms pour lesquels prier, et moi je lui passais des noms pour lesquels aussi intercéder. Et parmi les noms que Ralph Chalice me passait, il y avait le vôtre. J'ai prié des années pour vous sans vous avoir connu. Et quelle joie de savoir que, à l'heure qu'il est, non seulement vous êtes chrétien, mais ma joie est grande parce que vous êtes serviteur de Dieu. Alors le Seigneur m'a plus qu'exaucé. Si nous savions combien on priait pour nous à notre insu, nous en serions confondus. Surtout dans des circonstances, comme je le disais tout à l'heure, où nous nous étions crus seuls. L'intercession n'est pas chose aisée. Elle n'est pas chose facile. D'où précisément le fait que Dieu s'étonne de ne pas trouver d'intercesseur. Du temps d'Ésaïe, le prophète, Dieu s'en était étonné. Et il avait fait dire à Israël par la bouche de son prophète, Ésaïe, en Ésaïe 59, verset 16, « Je m'étonne de ne pas trouver d'homme qui intercède. » La même chose avait été dite à peu près par un autre prophète, Ézéchiel, au chapitre 22e de son livre, Dieu disant par la bouche de ce prophète, « Je cherche un homme qui se tienne devant moi en faveur du pays, je n'en trouve pas. » Les intercesseurs sont rares, les vrais intercesseurs. Ils sont rares, pourquoi ? Nous allons le dire dans quelques instants. En tout cas, Épaphras en était un, et Paul avait besoin d'un tel homme dans son équipe, parce que Épaphras était un soutien spirituel considérable pour l'apôtre dans ses difficultés, dans cette prison dans laquelle il se trouvait à Rome. Quelques textes à partir desquels nous pourrions méditer quelques instants nous font savoir qu'Épaphras était un Colossien. Épaphras qui est des vôtres. Paul écrit aux Colossiens. Il était donc Colossien d'origine. Il est même fort probable que ce soit lui qui ait créé l'église de Colosse. Il avait une dimension pionnier, très certainement. Parce que nous savons que Paul dit dans cette même épître aux Colossiens qu'il n'avait jamais rencontré les Colossiens, qu'il ne les connaît pas. Mais par l'intermédiaire d'Épaphras, il leur avait fait passer des messages. Épaphras donc était un Colossien, selon l'apôtre. Colossiens chapitre 4 verset 12, nous avons aussi à partir de Colossiens 1, 7 et 8, qu'il était un fidèle ministre de Christ pour les Colossiens. Il était donc à leur service, il avait fait le voyage certainement de Colosse jusqu'à Rome à la rencontre de l'apôtre Paul pour lui donner des nouvelles de cette église de Colosse en même temps que des églises de Laodicée et d'Hierapolis. Un fidèle ministre. Ne nous laissons pas impressionner par le terme « ministre ». Parce que nous pourrions dire « je ne suis pas ministre ». Ce terme « ministre », c'est tout simplement le mot « diacre », »,« serviteur » que l'apôtre emploie. Et pour vous rassurer, il ne désigne pas du tout la fonction d'un homme du clergé. C'est exactement le même terme qui est employé à propos des serviteurs du bon vin lors du miracle de Cana. Et ces serviteurs du bon vin n'avaient rien de ministre. Ils étaient tout simplement des serviteurs. Il était donc un fidèle serviteur de Christ, un fidèle diacre. Nous avons hier parlé de la fidélité qui est précieuse aux yeux de Dieu. Si vous voulez en savoir davantage, il faut reprendre l'étude d'hier soir à propos de Silas, qui lui aussi, par Pierre, avait été qualifié de fidèle frère. Nous avons également, grâce à l'épître à Philémon, au verset 23, que ce même homme avait été compagnon de captivité de l'apôtre, en même temps que compagnon de service. Essayons maintenant de voir en quoi cet homme était un homme de prière. Et comment ont-ils prié ? Spurgeon, qui a été un homme remarquable dont j'ai vu le lieu où il avait coutume de prier, pas loin de Londres. Spurgeon a dit ce qui suit un jour, « Les hommes de prière sont comme une muraille de feu autour de leur pays. » Et il me semble que la France, plus que jamais, a besoin de ces hommes-là. Pour être protégée, elle a besoin qu'une muraille de feu la protège des attaques de l'ennemi. On disait d'un certain John Knox, qui a été le réformateur de l'Écosse il y a bien des siècles. On disait de lui qu'on le craignait pour ses prières et son intercession davantage que des armées de milliers d'hommes. Et on sait tout le travail accompli par cet homme. Pour ce qui était d'Épaphras, l'apôtre dit ce qui suit, « Il ne cesse de prier. » Il ne cesse de combattre. Considérons cette expression « il ne cesse » pour commencer. Elle nous fait savoir qu'Épaphras cultivait l'intercession et qu'il ne priait pas par à-coup, comme c'est très souvent notre cas. On nous passe des sujets de prière, alors on va y aller. On a une campagne d'évangélisation en vue, on va y aller. On a un effort en vue, on va y aller. Et on se mobilise pour une occasion. Tandis que Épaphras, lui, était constamment mobilisé. Il ne cesse de prier pour vous. Et les hommes de prière de la Bible étaient des hommes constamment mobilisés dans la prière, dans l'intercession. Ils ne priaient donc pas par à-coup, au gré de ses humeurs ou au gré de ses bonnes dispositions, comme c'est très souvent le cas chez nous, en particulier chez moi, parce que le premier visé, évidemment, c'est Alain Choiquier. Mais cet homme ne cessait de prier, il ne cessait de combattre. Oui, mais Alain Choiquier, nous n'avons pas que ça à faire. Nous avons nos 8 heures par jour, sinon nos 10 heures. Hein, nous avons tellement de choses à faire, mais vous savez qu'on peut prier partout. On peut prier au travail, on peut prier dans une voiture, au volant d'une voiture. Et je disais au cours des soirées ici passées que ma 505, ma Peugeot, est vraiment pour moi un lieu de prière. C'est un sanctuaire roulant. Et je ne sais pas si Peugeot savait qu'il était en train de fabriquer l'usine, un sanctuaire pour Alain Choiquier, en lui fabriquant cette 505. On peut prier, bien sûr, les yeux ouverts, hein, dans la voiture. Je le mentionne parce qu'un jour, j'étais allé à la gare de Lyon pour rencontrer deux Suisses qui étaient venus nous aider dans un camp de travail. Et une fois ces Suisses pris à la gare de Lyon, je leur avais suggéré de prier, alors que nous étions en voiture, pour remercier le Seigneur de leur avoir donné un bon voyage, etc., et de bénir le camp qui commençait. Mais j'avais oublié que ces deux Suisses descendaient de leur chère Brévine là-haut et qu'ils habitaient un hameau de quelques centaines d'habitants et qu'ils étaient venus dans cet immense Paris. Je les avais trouvés dans le vertige, littéralement. Et j'avais commencé de prier. Alors l'un était assis à côté de moi, l'autre derrière. Et j'avais dit, Seigneur, merci pour l'avenue de ces deux amis, bénis-les, réjouis-les. Merci de leur avoir accordé un bon voyage. Continuez de prier tout en conduisant dans Paris des voitures derrière, devant, comme vous le savez. Et ces Suisses qui n'avaient jamais eu une telle expérience de s'inquiéter de me voir prier, puis tout à coup, entendu que j'étais là, toujours en train de conduire, le visage de l'un de ces Suisses s'était trouvé devant le mien pour savoir si mes yeux étaient restés ouverts. Il avait poussé un ouf de soulagement. Mais on peut prier partout, hein, quelle grâce. On peut intercéder partout, en tout lieu. Et c'est ainsi qu'on peut soutenir un effort d'intercession. Il ne cesse de prier. Et puis, ensuite, je disais tout à l'heure que l'intercession ne consiste pas toujours, et la prière d'une manière générale, dans de bons moments. Ce matin, c'est un bon moment que nous passons ici. Un bon moment dans l'adoration, dans l'action de grâce, nous rappelant les bontés du Seigneur, sa fidélité, rappelant aussi certains traits de sa personne, de son cœur. Mais la prière, savez-vous, n'est pas toujours un bon moment à passer. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, Alain Choiquier? C'est le terme « combattre ». Il ne cesse de combattre pour vous. La prière, un combat. Or, un combat n'est pas toujours facile. Et ce qui surtout me fait dire que la prière ne consiste pas toujours dans de bons moments, c'est le mot grec ici employé par l'apôtre, rendu par combattre. C'est par souci de rendre en bon français que nous avons le terme combattre ou lutter, mais en réalité, l'apôtre emploie le terme agoniser. Il ne cesse d'agoniser pour vous dans ses prières. Et qui peut dire que l'agonie est un bon moment à passer ? Epaphras agonisait dans la prière. Je pose la question, lequel d'entre nous a cette expérience de l'agonie dans la prière ? Et c'est peut-être ce qui explique que très souvent, ce soit dur, difficile, dans nos vies chrétiennes, dans l'Église, dans nos rapports les uns avec les autres, en évangélisation, l'agonie, un combat terrible d'intensité. C'est ainsi que priait Epaphras. Il ne cesse d'agoniser pour vous. Et Paul le voyait, puisqu'ils étaient ensemble en prison, et qu'Epaphras luttait de toutes ses forces. Et c'est quoi l'agonie ? L'agonie, c'est une lutte contre la mort, dans l'énergie du désespoir. Quand on parle d'agoniser, bien sûr, on pense au Christ, lequel en Luc 22, 44, en Gethsémané, était entré en agonie, lui aussi. En agonie pour le monde dont il allait porter les péchés, dont il allait juger les péchés à la croix, bien sûr, pour lesquels il allait être jugé à notre place. Mais il a porté notre jugement au calvaire. Il était entré en agonie en Gethsémané. Et l'intensité du combat chez le Christ a été telle qu'il en avait transpiré le sang. Il n'est pas dit que Epaphras était arrivé dans l'intercession à ce point-là. Mais bien sûr qu'il ne portait pas ce que le Christ portait. Parce qu'en Gethsémané, le Christ nous portait tous. Avec nos soucis, nos fardeaux, nos péchés, tout ce que vous savez. Et non seulement les nôtres, pour nous qui sommes ici, mais les péchés du monde entier. Des hommes de tous les siècles passés et des siècles à venir, si nous devions encore continuer de vivre longtemps sur cette terre. Il était donc entré en agonie. Quelle lutte ! Et le terme agonisé parle de lutte considérable, de peine, de souffrance résultant d'un combat formidable d'intensité. Et puis, comme vous le savez aussi, l'agonie, c'est une lutte contre la mort. Pourquoi donc l'emploi de ce terme ? Parce que la véritable intercession nous place face à l'ennemi, à toute sa puissance, à la puissance de l'ennemi. Ce qui explique encore pourquoi il y a peu d'intercesseurs. L'intercession nous place face à toute la puissance de l'ennemi. Et nous n'aimons pas tellement avoir contact avec lui. Hein ? Moi, je suis d'accord avec vous. On n'aime pas tellement avoir contact avec l'ennemi. Et l'apôtre Paul, qui était lui aussi un intercesseur, a un jour dit ce qui suit en Éphésiens 6, 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » Les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits mauvais dans les lieux célestes, mais il ne dit pas en Christ, les lieux célestes. Il arrête là. L'apôtre avait donc conscience que le combat qu'il menait pour l'avancement de l'évangile se situait à ce niveau, au niveau de toute la puissance de l'ennemi à faire reculer. D'où précisément cette explication du terme agonisé face aux puissances de mort. Face aux puissances de ruines, face aux puissances de destruction, face aux puissances du péché. Je ne sais pas si il se fait que nous prenions conscience du vrai combat que nous avons à mener constamment. Contre la puissance de l'ennemi. Est-ce que nous en avons conscience ? Je pars demain matin pour l'Alsace, où je vais passer une semaine pour la prédication de l'Évangile jusqu'à dimanche prochain, tous les soirs. Je peux vous dire que je sais à qui j'aurai affaire, à qui j'ai déjà affaire. Et que pour finir, le vrai combat, Ce ne sera pas le combat contre la chair et le sang, mais le combat contre les puissances, les dominations, les autorités, pour leur arracher des hommes et des femmes, parce que sans le savoir, les hommes et les femmes sont manipulés par l'ennemi. L'apôtre Paul en avait conscience, mais il se fait très souvent que nous n'ayons pas conscience de ces choses-là. Pour savoir ce qui se passe dans le monde invisible, nous allons, y jeter un œil. En Daniel 10, nous lisons quelques versets, pas tout le chapitre. Je situe Daniel dans son contexte historique en même temps que géographique. Il n'est pas en Palestine, mais il est à Babylone. Il a été premier ministre de Nebuchadnezzar. Il a été remarquable dans son témoignage, dans sa vie de prière. Et voilà un homme qui, justement, cultivait lui aussi l'intercession. Et pendant le règne de Cyrus, Daniel s'était posé la question de savoir quel était le plan de Dieu pour son peuple. Et il avait décidé de prendre le sac et la cendre pour se mettre en relation avec Dieu de façon intime et pour surtout savoir ce que Dieu avait en réserve pour son peuple. En ce temps-là, moi, Daniel, verset 2e, je fus trois semaines dans le deuil. Chapitre 10, je l'ai dit tout à l'heure. Daniel 10, 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point jusqu'à ce que les trois semaines fussent écoulées. Nous savons ensuite ce qui s'est passé. Un ange lui fut envoyé, mais ce qui est étonnant dans ces textes, c'est l'ange. En même temps que les paroles qu'il a dites à Daniel, verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Dès le premier jour. Alors pourquoi avoir attendu trois semaines? Mais l'ange explique pourquoi. Continuons. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Et puis le verset 20e, il me dit, sais-tu, Daniel, pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan, c'est-à-dire de la Grèce, viendra. Mais je veux te faire savoir que personne... je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ces chefs-là, excepté Michaël, votre chef. Alors, voilà que l'ange explique à Daniel qu'il s'était passé un combat de chef dans le monde invisible. Combat qui avait complètement échappé à Daniel, qui se posait la question de savoir pourquoi les jours passaient, et la réponse n'arrivait pas. L'ange arrive pour finir, après un combat de 21 jours contre le chef du royaume de Perse, qui n'était pas le roi de Perse, pas du tout, puisqu'il est question des rois de Perse. Un verset plus bas, le chef du royaume de Perse était une domination, une autorité établie de Satan sur le royaume de Perse. Et c'était avec lui que l'ange avait eu énormément de difficultés. Et il avait fallu l'intervention de Michaël, lequel n'est pas un personnage humain, mais une autorité, lui, établie de Dieu. Il a fallu l'intervention de Michaël auprès de l'ange pour l'aider à passer, pour atteindre Daniel. Et si Michaël n'était pas intervenu, l'ange n'aurait peut-être pas pu passer du tout. Un combat de chef sur la tête de Daniel dans le monde invisible. Voilà très souvent ce qui échappe aux enfants de Dieu en même temps qu'à l'église de Dieu dans le combat qu'elle a mené pour l'avancement de l'évangile et du royaume ici-bas. Puis ensuite, l'ange de lui dire « Personne ne m'aide contre ces chefs-là, le chef de Javan, le chef du royaume de Perse, sinon Michaël, votre chef. » Nous pensons très souvent que le diable est quelqu'un de tout à fait désorganisé, mais pas du tout. À la lecture de ce texte d'Éphésiens 6, 12, on apprend au contraire qu'il est très bien organisé. Il a établi des dominations, des autorités, des princes, le servent des princes du monde des ténèbres, des esprits mauvais. Et il les a établis dans le monde un peu partout, bien sûr à sa guise. Il en est, lui, le chef suprême, c'est le véritable despote, mais en attendant, il travaille très fort. Ça n'est pas du tout quelqu'un de désorganisé. Et il avait établi un chef sur le royaume de Perse. Et j'ai comme l'impression qu'il en a établi un sur le royaume de France. Il y a un drôle de chef, avec lequel nous avons affaire très couramment. Et quel combat! Quel combat! Maintenant, essayons de creuser encore davantage ce monde invisible pour savoir ce qui s'y passe. Il est bon, de temps en temps, de jeter un œil dans cette direction-là pour prendre conscience d'événements à ce niveau. Lisons quelques textes en 2 Corinthiens 12, 2. 2 Corinthiens 12, 2. L'apôtre dit ce qui suit, en parlant de lui-même très certainement. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Qu'est-ce que nous apprend ces textes? Nous apprennent ces textes. Que le paradis, c'est quoi? Le troisième ciel. Un jour, quelqu'un dans une réunion, je ne sais plus où, a sorti le septième ciel. Alors, la Bible ne parle jamais du septième ciel, elle parle du troisième ciel. Il semble qu'il y ait plusieurs cieux. Il y a des lieux célestes en Christ, Éphésiens 2, 6. Quand l'apôtre écrit ce qui suit, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Il y a des lieux célestes qui ne sont pas en Christ. Éphésiens 6, 12. Nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres dans les lieux célestes, mais pas en Christ. Il y a plusieurs lieux célestes. Ceci nous aide à comprendre alors que l'ange qui fut envoyé des lieux célestes en Christ, parce que le paradis représente les lieux célestes en Christ, incontestablement, ou encore le troisième ciel, ce ciel qui fut promis à ce brigand sur la croix, repentant, lequel en ces termes a parlé au Christ, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Que lui répondit Jésus? Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, c'est-à-dire le troisième ciel. Le troisième ciel étant donc le ciel du Seigneur, le ciel du Christ. Nous ne pouvons pas penser un moment qu'il puisse y avoir d'autres lieux célestes au-dessus de ceux-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu. Et que Dieu est précisément celui qui domine toute la situation. Et que le point le plus élevé, l'endroit le plus élevé qui se puisse situer dans l'infini des cieux, c'est le trône de Dieu. Et la Bible dit que Dieu voit tout sous ses pieds. Sous ses pieds. Il n'y a donc rien au-dessus de Dieu. De sorte que cette zone infestée de démons diaboliques, cette zone faite de principautés, de domination, d'autorité, qui dépendent de Satan, du diable, ne peuvent se situer qu'entre les lieux célestes en Christ et nous. Alors, on comprend mieux que l'ange envoyé du trône par Dieu pour atteindre Daniel ait été en route, intercepté par un chef sous l'autorité du malin pour s'opposer à la mission de cet ange. C'est ce qui se passe quand on intercède. Vous le saviez jusqu'à ce matin? Est-ce que nous le savons quand nous luttons pour le salut des âmes à genoux? Mais je veux terminer maintenant, j'ai promis d'être court, pour vous annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va vous réjouir. Parce que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient aujourd'hui du temps de Daniel. Elles ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, les choses ont changé. Surtout, elles ont changé depuis l'arrivée du Christ, l'avènement du Seigneur, le Christ ayant dit ce qui suit. Jean 1, 51. Vous verrez désormais le ciel... J'ai pas entendu. Fermé? Ce matin, je suis sourd, un peu plus fort. Vous verrez désormais le ciel... Ouvert. Quelle promesse! Vous verrez désormais le ciel ouvert. Ceci signifie du même coup que le ciel était précédemment fermée. D'où précisément les combats de Daniel. Mais le Christ est venu nous ouvrir le ciel. Et comment a-t-il ouvert les cieux? Oh, ceci est précisé dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 2 et au verset 15. L'apôtre dit, il a dépouillé le Christ, il a dépouillé les puissances, les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. De quelle manière? Par la croix. Oh, ce soir, nous découvrons, j'allais dire, une autre dimension à la croix. Non seulement la croix a vaincu nos péchés, elle a aboli le péché, elle a brisé nos chaînes. Non seulement la croix a fait de nous des enfants de Dieu par le péché qu'elle a réglé et qui faisait barrage entre Dieu et nous, mais la croix s'est aussi intéressée à toute la puissance de l'ennemi. Et à la croix, toute la puissance de l'ennemi a été foulée aux pieds, a mordu la poussière, de sorte qu'à l'heure qu'il est. Pourquoi tout à l'heure je disais que la situation n'est plus la même que du temps de Daniel? Parce que les autorités, les puissances, les dominations ont été vaincues, ont été dépouillées. Nous avons à lutter contre des dominations qui sont vaincues. Au nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. D'où cette parole de l'apôtre, nous sommes plus que vaincus. Merci. Parce que sinon, je me serais posé des questions. Nous sommes plus que vainqueurs. Il ne dit pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés par Christ. Il a vaincu tout, absolument tout, de sorte que pour nous, chrétiens, il est possible de vivre à ciel ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert. L'Église peut vivre à ciel ouvert. Nous pouvons prier à ciel ouvert. Pas comme Daniel, quel combat sur sa tête. Nous pouvons prier à ciel ouvert. Nous pouvons adorer à ciel ouvert. Ce matin, nous le faisons. Nous pouvons travailler à ciel ouvert. Le Christ est venu nous ouvrir les cieux, mais il faut à tout prix nous saisir tous les jours de cette victoire du Christ pour la faire nôtre, afin de jouir vraiment de ce ciel ouvert. Sinon, il n'est pas ouvert, hein, c'est une question de foi. Nous sommes vainqueurs, non pas parce que nous avons vaincu, mais parce que Christ a vaincu. Et je pense que c'est dans cet esprit-là que luttait Epaphras. Epaphras qui croyait dans la puissance de la prière. Et très souvent, on n'y croit plus. C'est pourquoi on ne vient pas à la réunion de prière. Tandis que si nous savions ce qu'elle est capable de faire, une réunion de prière, je suis sûr que nous nous bousculerions au portillon pour y assister. La réunion de prière, c'est fantastique. Elle ouvre le ciel sur les perdus. Elle ouvre le ciel sur l'Église, qui est constamment la cible de l'enfer. L'enfer vise l'Église constamment. Et l'Église a constamment l'enfer pour ennemi. Mais avec cette promesse du Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc l'Église lutte contre les forces de l'enfer. Mais souvent, elle n'en a pas conscience. Il faut que nous prenions conscience ce matin de ce que représente le combat de la vie chrétienne, le combat spirituel. Dieu cherche des intercesseurs, la Bible dit qu'il cherche des adorateurs, Jésus l'a dit à une femme samaritaine, c'est vrai, mais il cherche aussi des intercesseurs. Puisse le Seigneur trouver des intercesseurs et surtout des Épaphras du milieu de nous qui ont ce ministère de l'intercession. Ce matin, Dieu dit, je cherche des intercesseurs. Nous trouvera-t-il? Est-ce que nous sommes prêts à lui dire, oui Seigneur, je veux l'être? Ceci requiert un engagement personnel devant Dieu, en même temps qu'une fidélité dans la prière, sachant que le Seigneur est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qu'il a tout vaincu dans tous les domaines et à tous les niveaux, qu'avec lui, nous sommes déjà vainqueurs. Il faut saisir par la foi tout cela et aller de l'avant. Dieu cherche des intercesseurs. Est-ce qu'il va les trouver? Et le message a aussi rappelé la croix, la puissance de la croix, la puissance de la rédemption, la victoire de la croix. Bien puissions-nous, tandis que ces symboles vont passer, nous souvenir de ce que représente la croix. Ce matin, nous en avons saisi peut-être une nouvelle dimension. Que Dieu garde ce message sur notre cœur et qu'il produise son fruit à sa gloire. Amen.